Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Chaud, froid, chaud, froid, ce mois d'avril nous fait bien causer. Qu'est-ce qu'il se passe sous notre nez, dans nos champs, mais aussi plus globalement? Pour ce 7e épisode de Alerte Météo-Terre, on écoute un entretien de Laurent Auziel, océanographe et climatologue, et des lectures d'extraits du conte X de Serge Zaka. Terre.
Alerte météo. Terre.
Alerte météo. Terre.
Bonjour, bonjour les hirondelles.
Alerte. Alerte météo.
Alerte.
Une émission qui se balade.
Alerte.
En mer et sur terre. Météo Terre.
L'émission pour garder les pieds par terre.
Grande histoire et petite question.
Une émission en mer.
Petite histoire et grande question.
Et sur terre.
Screenshot. Donc, j'ai fait des screenshots, j'ai fait des captures d'écran du compte Twitter de Serge Zaka. Je suis son compte depuis un bon moment. Donc, sur son compte Twitter, il se présente comme docteur in agrométéorologie, administrateur à InfoClimat. Il explique les phénomènes météorologiques. Voilà, voilà, il épingle un poste en haut de son compte. Je suis né pour la météo. En janvier 1999, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à noter le temps. Tous les jours, toutes les 30 minutes, jour et nuit. Non, je ne suis pas fou, enfin je crois. C'est un peu un « qui suis-je » personnel, partagé avec vous. Janvier 99, voici mes plus anciennes archives. J'avais 9 ans. Depuis ce jour, je passe plusieurs heures par jour à regarder le ciel. J'en ai fait mon travail et ma passion. À partir de mes 12 ans, je notais le temps qu'il faisait toutes les demi-heures, jour et nuit. Je faisais des nuits blanches pour suivre les événements. Je le fais encore. Dès l'âge de 16 ans, après 8 ans de négociations avec mes parents, je deviens chasseur d'orages. Je ne note plus le temps qu'il fait de chez moi. Je sors l'observer sur le terrain. Et j'ai sélectionné quelques postes du docteur Serge Zaka pendant les jours où il a fait très chaud en ce mois d'avril. Par exemple, le 5 avril, nous vivons un début de nuit digne de juin. À minuit, un 6 avril, il fait encore 25 degrés à Biarritz, mais également près de 20 degrés dans le Poitou et en Alsace. La température minimale de la journée à Biarritz est de 21,5 degrés. Pour ce paramètre, il s'agit de l'anomalie la plus importante jamais observée sur cette station, tout mois confondu. Demain matin, de nouveau, de très nombreux records seront battus en France. Il n'a jamais fait aussi chaud un 5 avril en France. Les 30 degrés ont été dépassés avec jusqu'à 31,8 à Orthez. Ces températures sont incroyables pour un début avril, notamment après 26 mois de suite au-dessus des normes.
«
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 2. Nous avons vécu hier une journée hors norme. Nous étions 7 à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison. 140 records ont été battus pour un mois d'avril. La maximale à Sabre, dans la forêt landaise, avec plus de 32 degrés enregistrés. Aussi hier, il y avait beaucoup de monde sur les plages de l'Atlantique, comme ici à Saint-Jean-de-Luz. Attention d'ailleurs aux baïnes et au risque d'hydrocution dans une eau encore très fraîche. 14 degrés en cette période de l'année. Côté ciel, pour cet après-midi, les conditions resteront estivales. Cet après-midi, donc, avec sur une grande partie du pays, excepté peut-être sur la pointe de la Bretagne.
Tac, ensuite il y a un poste du 10. Je reviens pas en arrière. C'est dorénavant officiel. La France a battu son record national de chaleur ce 6 avril 2024 avec 33,9 degrés à Navarinx. Également son record de chaleur matinale avec 22,5 degrés à Biarritz. Un épisode encore plus exceptionnel puisqu'il se déroule en début de mois et sous ciel couvert. Malgré toutes les habituelles insultes racisme de Twitter, les prévisions se confirment pour samedi. Des pointes potentielles à plus 30 degrés au pied des Pyrénées et plus 25 degrés sur le centre. La température de la masse d'air à 1500 mètres sera propulsée à des niveaux jamais atteints en avril, voire mai pour certaines régions. Il demeure cependant deux incertitudes. Le timing de l'arrivée d'un air plus frais par l'ouest samedi et la présence de sable, potentiellement en forte quantité, et son potentiel de condensation qui pourrait freiner la hausse des températures. Cet épisode ne poserait pas question s'il ne s'inscrivait pas à la suite de 26 mois d'affilée au-dessus des normes. Le compte de « Je dis ça, je dis rien ». L'Asie du Sud-Est étouffe, plus de 48 degrés par endroit depuis une semaine. L'index de chaleur a atteint les 52 degrés ressentis. Évidemment, des centaines de records sont tombés, explosés de 4 à 5 degrés parfois. Cette région abrite 650 millions de personnes.
Comme une grande partie de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh étouffe. Les températures y ont atteint plus de 42 degrés la semaine dernière. Dans la capitale Dhaka, des juges de la haute cour ont adopté une ordonnance pour fermer les écoles jusqu'à jeudi inclus. Et pour cause, plusieurs étudiants et enseignants ont souffert de malaise à cause de la chaleur extrême depuis début avril. Selon les autorités, au moins 7 personnes sont décédées. Situation similaire au Cambodge, au Vietnam et jusqu'au Népal. Mais c'est aux Philippines, en Thaïlande et en Birmanie que les conditions sont les plus sévères. On y a atteint les 48,2 degrés. Les mois qui précèdent la mousson, la saison des pluies, sont généralement plus chauds. Mais cette année, les températures sont bien supérieures à la moyenne. Les experts confirment que le changement climatique provoque ces vagues de chaleur plus fréquentes, intenses et longues. La déforestation et l'urbanisation sur le continent seraient aussi en cause.
Ensuite, un poste qui date du 11, toujours avec une carte de l'Europe toute rouge. Alors il dit « Ce week-end devrait être marqué par de très forts écarts thermiques en Europe. La première quinzaine d'avril devrait être l'une des ou la plus chaude depuis le début des mesures. » Quelles conséquences agricoles ? Positif. La saison des semis de printemps est en cours. Après les récentes pluies qui rendaient les champs inaccessibles, cette période de douceur offre une fenêtre de tir pour les agriculteurs. Négatif. Il y a eu peu de gel en hiver, beaucoup d'humidité au printemps. Ces températures optimales étaient la dernière pièce manquante pour le développement des maladies. Autre négatif, les végétaux prennent encore plus d'avance sur leur croissance et sont donc très sensibles au gel. Le retour du gel n'est pas exclu d'ici fin avril.
c'est le printemps qui s'installe aujourd'hui et c'est un pic de douceur, de chaleur, anormal pour la saison évidemment que nous allons connaître ce samedi. Alors regardez ici, ces dernières heures sur les plages de l'Hérault, les températures sont montées jusqu'à 23 degrés, il en fera 26 cet après-midi. La température de la Méditerranée est bien plus fraîche, à peine 13 petits degrés. Vous le voyez, le soleil sera omniprésent, encore une poche, vous le voyez, un petit peu plus nuageuse, notamment sur le nord-est, le Mistral qui reste présent en Méditerranée, partout ailleurs du soleil. Pour la suite du programme, je vous le disais, le pic de chaleur, ce sera pour la journée de samedi avec du plein soleil sur l'ensemble de la France. Un petit vent de nord, notamment du côté du Nord-Pas-de-Calais. Et en moyenne, il fera jusqu'à 25 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 30 localement dans le sud-ouest. Regardez, pour la journée de dimanche, ça va changer dans les régions du nord, ça va baisser. Par contre, le soleil sera d'actualité dans les régions du sud avec toujours de la chaleur.
Donc, ce 6 avril fut historique. Il n'avait jamais fait aussi chaud avant un 15 avril, en plus d'un siècle de mesure. À peine une semaine plus tard, ce 13 avril 2024 le détrône en devenant la journée la plus chaude avant un 15 avril. Premièrement, jusqu'à 32 degrés. Deuxièmement, 151 records mensuels battus ou égalés, dont certains datant du 19e siècle. Et troisièmement, une anomalie de plus 11,14 degrés sur les maximales. Ces records entraînent une avancée record de la végétation, devenant ainsi sensible au moindre gel. Des moins 0,5 degrés à moins 1,5 degrés, les dégâts apparaîtront. Il est difficile d'imaginer que le gel revient en France dès mercredi, durant une période d'extrême sensibilité des végétaux. Jeudi 19 avril sera une journée particulièrement à risque, avec très certainement des dégâts sur l'agriculture. Cette récurrence d'avancées de végétaux et de l'accroissement de leur sensibilité au gel de printemps n'est pas ponctuelle. Il s'agit d'une réalité difficile à accepter du changement climatique sur notre agriculture. Au stade petits fruits, 10% de perte dès moins 0,5 degrés. Un moins 2 degrés provoquerait 30 à 40% de perte. Cette avancée record des végétaux est due à la douceur voire chaleur qui règne en France depuis le 22 janvier. Je vous tiendrai informé des évolutions.
Ces chaleurs records ont développé les végétaux et les végétaux sont très sensibles. Pour vous donner quelques chiffres, lorsqu'un végétaux a le bourgeon fermé, c'est moins 20 degrés à moins 30 de résistance. Lorsqu'on est en floraison, c'est à peu près moins 2,2 de résistance. D'accord. Lorsqu'on perd les pétales, moins 1,8. Et lorsqu'on a le petit fruit, comme on a vu ici pour la noix, c'est moins 0,5. Plus le végétaux pousse, plus il est sensible à la sécheresse.
C'est veut dire que là, à moins 0,5, à on moins perd 0,5. Sa récolte.
Il ne perd pas sa récolte, on commence à voir les premiers dégâts. C'est plutôt autour des moins 2, moins 3 qu'on commence à avoir vraiment de fortes pertes de rendement. La vigne est très très en avance, on a eu des images assez impressionnantes de vignes qui ont déjà 5-6 feuilles sur certains rameaux, donc très sensibles au gel. On a également l'orge dans le nord-est de la France, les grandes cultures sont également concernées parce qu'on est dans une période de pollinisation très sensible aux vagues de froid, et on a également le blé dans une moindre mesure. Les autres cultures devraient plutôt s'en sortir. Donc c'est surtout arbo et vigne en général. Que ce soit la vigne ou l'arboriculture, lorsqu'on a une fleur et qu'elle tombe, qu'elle a gelé ou qu'il y a eu un excès d'eau ou une forte chaleur, chaque fleur tombée, c'est une grappe, un fruit en moins sur l'arbre. Il faudra attendre l'an prochain pour avoir de nouveau une floraison. Donc ce sont des pertes sèches de rendement. Pour la vigne, on peut avoir des phénomènes de compensation avec des bourgeons secondaires, mais qui sont moins productifs cependant. Donc le gel provoque des pertes de rendement. Et les problématiques, c'est qu'on observe de plus en plus cette avancée de la phénologie et du gel en avril qui reste classique. Et avec le changement climatique, les études scientifiques montrent que ce risque s'accroît à cause, pas du gel, mais de l'avancée des stades de développement des cultures.
Donc depuis, il est passé à la télé pour parler des gels, des gelées. Bon, et on lui a reproché que c'était normal, les gelées. Donc il s'est fait insulter, comme beaucoup de gens qui parlent de réchauffement climatique. Est-ce qu'il a posté depuis ? Donc il répond il y a 4 jours, suite à ça. 72 heures d'insultes sur Twitter, mais également par mail et SMS. Voilà ce que vulgariser sur les impacts du climat sur l'agriculture coûte de nos jours. Cette haine, attisée par des comptes suivis, n'a plus lieu d'être, tant les impacts sont indéniables. Et alors, maintenant il pleut. Je suis allée interviewer Laurent, océanographe et climatologue.
Alors...
non, je suis tout sérieux, là.
Et Serge Zaka, on peut s'en référer, hein, parce que moi, oui. Je vais lire des extraits qu'il a, des choses qu'il a écrites sur Twitter. Et là, il s'est fait attaquer. Et lui, il disait juste que c'était les pics anormaux de chaleur qui avaient fait que les végétaux se développent prématurément. Et du coup, bim, après...
Ouais, exactement, ouais. En fait, lui, il dit pas que les épisodes de gel sont anormaux, il dit juste que les pics de température précoces qu'on a connus début avril, fin mars, où il a fait 30 degrés, qui sont complètement anormaux pour le coup, bah, ça avance. La phénologie des plantes, la phénologie, c'est le développement saisonnier des plantes. Donc lui, il dit juste ça, il dit juste c'est normal les épisodes de gel, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a eu une période de douceur. Et donc lui, en fait... Quelque part, il s'inquiète du rendement de nos agriculteurs. Et derrière, les agriculteurs, ils lui disent... Enfin, certains, en tout cas, ils lui disent... Mais tu racontes n'importe quoi. Enfin, tu vois, il fait froid, il y a le changement climatique, ça n'existe pas. Et encore une fois, il fait froid aujourd'hui. Même si demain, il fait moins 40 en France et que c'est complètement anormal, ça ne remettra même pas en cause le changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est des moyennes d'ensemble sur le long terme, quoi. Donc un pic, ça ne changera rien. Sachant qu'il y a eu 40 pics de chaud derrière. Parce que oui, après, il y a des phénomènes météo qui sont favorisés par le changement climatique. On parle par exemple des cyclones tropicaux, par exemple. Plus il fait chaud, plus il y a d'humidité dans l'atmosphère. Et donc on voit le phénomène, la fréquence de ces cyclones et l'intensité de ces cyclones qui augmente. Donc quand on voit un ouragan très très fort, on pourrait me renvoyer l'argument « Oui, mais tu as dit tout à l'heure qu'un événement local n'est pas lié au changement... » Mais c'est sûr qu'en fait... la dynamique du changement climatique va rendre ces événements plus fréquents et plus forts. Par exemple, les sécheresses, si on a un pic de chaleur à Toulouse ici, par rapport on a un ouragan en Louisiane, ou des tornades dans les plaines américaines, et bien ça, c'est quand même des choses qui, même si ça a toujours eu lieu, leur intensité et leur force vont augmenter avec le changement climatique. Mais pour sortir un peu... comment dire, le vrai du faux là-dedans, il faut savoir quand même, il faut quand même donner un minimum d'éducation, enfin de savoir-faire, de savoir. Et c'est vrai que c'est pas évident, et c'est pour ça que les gens qui parlent sans connaissance de cause, ils peuvent juger à l'emporte-pièce en se disant, mais voilà, ces climatologues, ils racontent n'importe quoi. Et c'est parce qu'en fait, il faut redéfinir un peu les choses, quoi. J'ai l'impression aussi qu'il y a un trop-plein dans la population, que les gens ont marre, enfin des fois, d'entendre parler du climat. Enfin, en tout cas, une partie de la population, j'ai l'impression que Ça leur sort par les yeux un petit peu, ces thématiques climatiques.
On nous fait souvent le reproche de ne parler que des records de chaleur pour accentuer, créer une impression de changement climatique. Je veux bien, mais de quel froid ? Aujourd'hui, on s'est juste rapproché des normes entre deux montagnes d'anomalies positives. Dois-je donc me mettre à parler d'un temps tout à fait de saison pendant 24 heures ? Je rappelle 2024 et, pour le moment... le début d'année le plus chaud jamais observé. Plusieurs centaines de records de chaleur ont déjà été battus contre un seul de froid. Nous venons de vivre la journée la plus chaude jamais observée en France avant un 15 avril. Jusqu'à 33 degrés dans le sud-ouest et 30 degrés sur la moitié nord. 51 records mensuels battus ou égalés alors que nous sommes qu'au début du mois. Cet épisode n'est pas isolé, il intervient après 26 mois de suite au-dessus des normes, faisant du changement climatique une réalité indéniable. Opinion des faux experts. Donc là, c'est un post de... Je n'ai pas photographié la date. Opinion des faux experts. L'hiver a été frais, froid. Fait mesurer. Début 2024 est le plus chaud depuis le début des mesures, minima 1930.
avec un excédent thermique presque permanent depuis le 22 janvier. C'est dire à quel point on a oublié la réalité de l'hiver en France. La chaleur prévue ces prochains jours va encore creuser l'écart. Cette sensation de froid est en réalité due au manque d'ensoleillement et à l'excès de précipitations. Le changement climatique accentue d'ailleurs les périodes de pluie, tout comme les périodes de sécheresse. Pour la pluie, le changement climatique réchauffe l'air. Chaque degré gagné, c'est plus 7% d'eau supplémentaire dans l'air, soit entre plus 2 et 4% de précipitations, notamment visibles durant les épisodes de forte pluie. Le changement climatique accentue l'apport d'humidité par les rivières atmosphériques, entre parenthèses, qui ont inondé le nord et le centre-ouest cet hiver. Pour les sécheresses, le changement climatique pourrait être à l'origine de la modification de position de centre d'action, entre parenthèses, comme les anticyclones en Méditerranée en 2022, augmentant la fréquence et la durée des périodes sans pluie. Le changement climatique augmente la température, ce qui, par ricochet, augmente l'évaporation et la transpiration des écosystèmes. Ainsi, même dans le cas de précipitations annuelles stables, entre parenthèses cas potentiel du nord de la France à consolider, les sécheresses progressent. Le changement climatique est à l'origine d'une baisse des précipitations annuelles dans le sud, entre parenthèses, indice de confiance plus fort en Méditerranée. En augmentant l'intensité de précipitations, notamment orageuses, le changement climatique diminue l'efficacité des pluies à percoler dans le sol et augmente le ruissellement. Le changement climatique modifie les cycles des végétaux. Ils se réveillent plus tôt au printemps et entrent en dormance plus tard en automne. Cela réduit de quelques jours la période de recharge des nappes phréatiques. Méfiez-vous des experts en carton sur les réseaux sociaux qui vous parlent de leur jardin aujourd'hui. Cela ne présage pas du futur sur la France.
Mais c'est ça qui est compliqué avec le changement climatique, c'est le ressenti local n'a rien à voir avec le phénomène global. Et donc en fait, c'est pour ça que les gens se trompent en fait en disant « Mais regardez, aujourd'hui il fait froid, il n'y a pas de changement climatique. » Donc en fait, le fait qu'on ressente plus 10 ou moins 10 degrés ici à Toulouse, ça ne veut rien dire sur le climat global. Les statistiques de l'ensemble de la planète, à tous les endroits et à travers l'espace-temps, si j'ai envie de dire, qui vont dire qu'il y a un changement global, quoi. Alors là, il faut vraiment mettre les choses à plat, il faut essayer de différencier la météo. Donc, chose, quand on parlait tout à l'heure de Serge Jacquat, qui se tue à dire, c'est-à-dire qu'il faut différencier la météo du climat. C'est la première chose à faire. Et je pense que la première chose que les gens, ils font, ils confondent, surtout les gens qui sont climato-sceptiques, la première chose qu'ils font, c'est confondre la météo et le climat. Donc, la météo, c'est à l'échelle de quelques heures, sur quelques jours. Et le climat, donc, c'est les tendances globales, mensuelles, jusqu'à annuelles, décennales, 10, 20, 30 ans, voire du siècle. Par exemple, la surface de la température de l'océan n'a jamais été aussi chaude depuis qu'on la mesure, depuis qu'on mesure la température de l'océan. Et ça, c'est un ensemble de... C'est pas un point dans l'année qui a permis de conclure ça, c'est le fait d'avoir mesuré en continu toute l'année, et c'est tous ces pics de chaleur qui ont levé la moyenne vers le haut. Et on peut se dire, bon ben voilà, en 2023, on a une moyenne qui est 2-3 degrés plus élevée que la moyenne du dernier siècle. Et en plus, à chaque fois qu'on a un bilan annuel, c'est sur l'année précédente, forcément. Donc là, on a un regard plutôt sur 2023, et 2024 est en train de se dérouler, donc on sait qu'on a déjà passé certains pics extrêmes, mais en moyenne, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on se rapproche très très rapidement du plus 2 degrés, quoi. Donc la chose qui a été promise par les accords de Paris à la fin du siècle, on s'y approche dès maintenant, en fait. Donc, en fait, on est en avance. Et donc, on a passé, je pense, si je me souviens bien, le 1,5. Et on se rapproche maintenant du 2 degrés. Voilà.
Bonjour, Serge Jacquat.
Bonjour à tous.
Vous les rencontrez de plus en plus souvent, ces climato-sceptiques ?
Alors oui, je les rencontre de façon virtuelle sur les réseaux sociaux. Et surtout depuis l'an dernier, depuis qu'on a eu les trois canicules, depuis qu'on a eu la sécheresse. Oui. Ils essayent, on va dire, d'exister malgré tous les faits scientifiques plus les faits scientifiques s'accumulent par rapport au changement climatique, aux pertes de rendement, aux feux de forêt, aux écosystèmes, tout ce qu'on voit hein, à la télévision, et bah plus ils exagèrent pour pouvoir exister, c'est de plus en plus important. Et surtout aussi, depuis le rachat de Twitter, on a de nombreux climato-sceptiques qui sont revenus avec des comptes certifiés qu'ils ont payés pour encore plus exister, donc ils ont la petite pastille bleue, histoire de se rendre encore plus intéressant. Alors justement, on a un très bel exemple ces derniers jours, on appelle ça du cherry picking. En gros, on ne regarde qu'une petite partie des données pour tirer une conclusion générale. Et ce que les climato-sceptiques font ces derniers mois, c'est qu'ils regardent ces 7 dernières années. Et sur les 7 dernières années, effectivement, le changement climatique est plutôt stable, le climat est plutôt stable à l'échelle de la planète. Mais si on le prolonge pendant un siècle, eh ben on remarque que c'est un réchauffement par palier, comme un escalier en fait. Donc on ne va pas regarder un palier, parce que c'est plutôt stable, il faut regarder l'ensemble sur le siècle passé. Donc c'est leur malin plaisir de prendre du cherry picking, de prendre juste une petite partie des données et vous dire il n'y a pas de changement climatique. Et donc on nous dit, bah, dans mon jardin il y a de l'eau, où est la sécheresse? Alors qu'il y a toujours 68% des nappes phréatiques qui sont en dessous des normales de saison. Donc en fait c'est vraiment de je prends des faits, des petits points et je généralise pour infirmer le changement climatique. Ce n'est pas une façon scientifique de procéder. Les climato-sceptiques vont vous parler du record de froid local, ponctuel, quelque part, alors qu'il y a 9 fois plus de records de chaleur, et ils n'en parlent pas. Alors moi, en tant qu'agroclimatologue, je regarde les écosystèmes et l'agriculture, et quand on regarde les écosystèmes, on regarde par exemple les dates de floraison des arbres fruitiers, l'apparition des premiers insectes, les oui. oiseaux migrateurs également. Et ce qu'on observe, c'est que sur les plus grandes séries phénologiques, donc de stades phénologiques de développement des plantes du monde, hein, au Japon, à Beaune, on en a une depuis 1371. Dans le Japon, on en a une depuis l'an 812. Qu'on observe, puisqu'on ne va pas parler des thermomètres, sinon on va me dire qu'ils sont truqués. Bah, les plantes, si on peut les truquer, appelez-moi le jour où on pourra les truquer. Et ben, on gagne depuis à peu près 100 ans, 20 jours sur la date de floraison, puisqu'il fait plus doux en hiver. Et donc les plantes sont aussi des façons hein, de relever la température. Et donc il n'y a pas que le rapport du GIEC hein, qu'il faut lire, il suffit juste de regarder les données de plusieurs stations en France ou même dans le monde, de regarder l'environnement, juste de constater, on peut le constater maintenant sur une vie humaine. 99% des scientifiques dans le monde s'accordent hein, sur le changement climatique de façon indépendante à travers le monde. Je ne vois pas pourquoi on prendrait les 1% des chercheurs qui disent le contraire en se disant ça, c'est la vérité. Et autre chose encore, oui, la température a varié sur l'ensemble de la planète au cours des derniers millions d'années. Hein, mais par contre, quand on parle d'échelle de temps sur la dernière centaine d'années, on n'a jamais vu une modification aussi rapide du climat sur Terre. Les arbres aussi l'attestent, les calottes glaciaires l'attestent. Il y a un moment, peut-être, qu'il va peut-être falloir se poser sur la table et réfléchir 2 secondes, parce que là, on est vraiment sur la base de la réflexion, et se dire, les 1% de ces recherches-là, on ne va pas les généraliser à l'ensemble de la recherche scientifique mondiale.
Je suis océanographe, climatologue. J'ai une formation de... Je commençais par m'intéresser à l'océanographie. Et puis, petit à petit, comme l'océan a un rôle majeur sur le climat, j'en suis venu à des considérations plus climat global. Voilà. Après, moi, j'ai une spécialisation sur le domaine polaire, donc l'océan Arctique. Parce que c'était intéressant de s'intéresser à des changements climatiques qui sont plus rapides qu'ailleurs. Et c'est le cas. Donc moi j'ai commencé par la météophysique et l'océanographie physique, c'est-à-dire comprendre la dynamique des fluides en fait, tout simplement. On va essayer de résoudre avec des équations physiques, mathématiques, comment le fluide se déplace et comment fonctionnent les courants d'air ou les courants d'eau. Et les masses d'eau ou les masses d'air vont se déplacer en fonction de leur poids et tout ça, et de leur masse. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser après au cycle, à la chimie, à la biologie, qui font un grand ensemble qu'on appelle la biogéochimie, qui en fait étudie le cycle des grands éléments comme le carbone, l'azote, et comment tout ça va réguler le climat et les écosystèmes. Donc c'est vraiment étape par étape, c'est aussi un cheminement à travers les études et le travail. On apprend beaucoup sur le tas au final, quand on est chercheur.
Et par rapport au mouvement de la Terre et de la Lune aussi, ça...
Ah oui, ça c'est un peu les premières choses qu'on apprend. Par exemple, la fameuse force de Coriolis, qui est due à la rotation de la Terre, qui est une force de déviation sur la droite dans l'hémisphère nord, sur la gauche dans l'hémisphère sud. On fait souvent des expériences comme ça à l'école, avec des plateaux qui tournent et une bille au centre qu'on envoie. On essaie de l'envoyer droite et en fait elle se dévie parce que le support est en rotation. Bien sûr, le phénomène des marées est entièrement dû à la présence de la Lune autour de la Terre. Donc ça, c'est on voit bien que les aspects planétaires sont dans les équations fondamentales en fait de la mécanique des fluides. En tout cas, à cette échelle-là. Bien sûr que si vous videz votre évier dans votre lavabo, ça ne s'applique pas parce que il faut que ce soit une échelle assez grosse. Que ce soit sensible à des forces si lointaines. Donc, on a un climat qui se réchauffe. Par exemple, en Arctique, l'air, il est froid et sec. On va en montagne, on va dans les pays nordiques, on se rend compte que l'air, il est sec. Donc, quand il y a des précipitations, c'est sous forme de neige. Et quand la neige, elle tombe, ça recouvre tout en blanc. Et ça fait comme un miroir, en fait. Et la lumière du soleil qui arrive, elle est renvoyée dans l'espace. Et du coup, ça entretient le fait que ces régions sont froides. Parce que la chaleur du soleil, elle reste pas, en fait. Le problème, c'est que si on réchauffe l'atmosphère à cause des rejets de dioxyde de carbone, eh bien, la neige se transforme en pluie. Petit à petit, parce que l'humidité augmente, la chaleur augmente. Et donc, la pluie, en tombant, elle fait fondre la neige. Et les surfaces deviennent plus sombres. Donc, il n'y a plus de glace sur l'océan. Donc, l'océan, il est plutôt bleu ou foncé. La neige sur les territoires disparaît, donc en fait d'être dessous c'est de la terre, donc c'est beaucoup plus foncé, donc ça va absorber la chaleur du soleil beaucoup plus efficacement et ça va encore plus réchauffer l'atmosphère. Donc c'est un phénomène d'emballement typique du changement climatique. Et donc voilà pourquoi c'est, par exemple, le fait que de remplacer la neige par la pluie, ça peut être encore pire, si je peux me permettre, pour le climat arctique.
Et pourquoi il pleut plus? Pourquoi on est plus sujet à des précipitations importantes?
Alors ça, c'est des changements dans la circulation des masses d'air de l'atmosphère. En fait, il y a on appelle ça des jets, c'est des grands courants d'air qui vont séparer les masses d'air. C'est quand même comme des barrières, en fait. Ça va faire, donc il va y avoir l'air polaire et il va y avoir cette barrière de comme une autoroute qui va être au niveau des latitudes tempérées, qui va séparer en fait l'air froid et sec du nord de l'air plutôt chaud, enfin en tout cas plus chaud que celui du nord et beaucoup plus humide des latitudes tempérées. Et ce jet, en fait, avec le changement climatique, il est altéré, il va faire des méandres, il va osciller, il va être plus chaotique et il va permettre donc à des bulles d'air plus chaudes et humides de pénétrer dans l'Arctique. Et petit à petit, donc c'est ces masses d'air qui vont rajouter de l'humidité. À ça, vous ajoutez que comme dans tous les cas, ça se réchauffe, eh bien, il y a plus d'évaporation de l'océan, tout simplement, plus des phénomènes d'évaporation. Donc il y a une quantité d'humidité dans l'atmosphère, dans tous les cas, qui augmente. Voilà, je crois que j'ai dû oublier quelques processus dans le tas, là, mais je pense que c'est les principaux.
On a tous appris ce schéma à l'école, le cycle de l'eau. L'eau des océans s'évapore et forme les nuages et redescend sous forme de pluie ou de neige. Une partie se stocke sous terre ou dans la glace des montagnes. Et le problème, c'est que le réchauffement climatique que nous vivons perturbe ce cycle à toutes les étapes. Et pour bien comprendre ces phénomènes, il faut se rendre ici, au pôle Nord, dans la région de l'Arctique. La température augmente ici 6 fois plus vite que sur le reste de la planète. Il neige donc ici de moins en moins en moins. Car au lieu de neiger, par moment, il pleut. Et toute cette eau, qui aurait dû rester stockée ici sous forme de neige ou de glace, ruisselle immédiatement et ne reste pas. Autre problème, la glace présente depuis très longtemps dans les glaciers fond à une vitesse beaucoup trop rapide. Résultat.
Toujours sur le profil du docteur Serge Zaka, le 9 avril. Cela fait 400 jours à la suite que l'Atlantique Nord bat son record journalier de température. Au niveau planétaire, nous sommes à 375 jours. Voici la carte d'anomalie la plus récente au niveau de l'Atlantique. C'est encore plus parlant. Donc, on a une carte où l'Atlantique est orange. Et alors, au large de l'Afrique, il est orange plus avec des zones à 2. Donc, c'est une carte ERAS. E-R-A-S.
Là, quand on parle de température des océans, en général, on fait référence à la surface des océans qu'on mesure par satellite. Donc ça, c'est des ondes comme votre micro-ondes, c'est les mêmes. Et ils arrivent à mesurer assez précisément aujourd'hui quand même la température de surface des océans. Ceci dit, bien sûr, il n'y a pas que la surface qui compte. Bien sûr, tout ce qui se passe en profondeur aussi est important. Ça, par contre, on arrive à le mesurer un peu moins bien parce que là, il faut aller en bateau, en général, faire des mesures sur place. Ou aujourd'hui, on a des systèmes, on va dire des robots autonomes, comme des drones, qu'on va balancer dans l'océan et qui vont mesurer de manière autonome dans la profondeur de l'océan. Et donc ça, c'est très précieux comme données parce qu'on se rend compte que, bien sûr, la surface de l'océan, elle est très sensible au changement de température, forcément, parce qu'elle est en contact avec l'atmosphère. Mais que le réchauffement, aujourd'hui, il atteint aussi des profondeurs beaucoup plus importantes, et que, bon, déjà, au-delà d'affecter tout l'écosystème, donc la vie sous-marine, ça, c'est sûr, ça va aussi transformer en profondeur la circulation océanique. Et là, il y a un impact potentiel sur le climat. On parle souvent, par exemple, du ralentissement de la circulation thermohaline, c'est-à-dire, par exemple, Je vais employer un mot, je pense que je me ferai tuer par mes collègues, on parle de Gulf Stream, mais ça c'est par abus de langage. Du coup, ces courants qui nous alimentent en chaleur en Europe, et qui vont trouver leur force dans le fait de, par exemple, de se refroidir dans les mers nordiques comme proche du Groenland. Et par exemple, si on réchauffe trop ces eaux, il faut savoir qu'une masse d'eau qui se refroidit, elle est plus lourde, donc elle chute. Et donc si elle se réchauffe trop, elle sera plus capable de chuter au fond des océans. Et donc ce tapis roulant qui représente cette circulation océanique peut être mis en danger. Mais c'est l'idée est là, c'est qu'on a une espèce de tapis roulant, grosso modo, donc des eaux qui remontent et qui descendent en profondeur, ça fait une circulation globale. Et donc, si on coupe la circulation à un moment donné, eh bien, on met en danger la circulation globale. Et il faut savoir que cette circulation océanique, elle est vitale pour répartir la chaleur dans le monde.
Donc là, en ce moment, en surface, on dépasse les températures moyennes, enfin les records de chaleur.
Ah, on les explose, ouais. On les explose. C'est pas qu'on les dépasse, c'est qu'on les explose. En 2023, donc on a plein de, il n'y a pas que la température, il y a plein de variables qui permettent de décrire l'état de l'environnement. On appelle ça des variables essentielles, chimiques, biogéochimiques, physiques, bien sûr, comme la température. Et donc on voit par exemple les 100 dernières années qui sont des courbes qui sont tous un peu les unes sur les autres, un peu dans l'épaisseur du trait. Et 2023, c'est vraiment au-dessus, mais pas un peu en-dessus, c'est en-dessus, quoi. Il y a vraiment un basculement, on a l'impression, qui se met en place en 2023. Et donc c'est vraiment du 1, 2, 3 degrés en-dessus des moyennes. C'est effarant, c'est effrayant. Et on se demande comment ça va se passer. Donc il y a eu des records partout, en Méditerranée, dans le golfe de Mexique, un peu partout dans le monde, sur la planète, aussi dans les mers de Chine, dans les mers indiennes, Pacifique, partout.
Est-ce que ça affecte les fonds marins aussi, ça ? Est-ce que la mer, c'est profond ? Je ne sais pas jusqu'à combien ça peut aller de profondeur, d'ailleurs.
Ben, la fosse marine, je crois que c'est 11 km, mais c'est le maximum.
Là ?
La fosse marine, c'est la plus profonde fosse. Mais en général, bon, les bassins, on va dire que c'est entre 3 à 6 000 mètres. Et après, bien sûr, il y a les zones côtières, hein, qui sont entre 0, 400, 500 mètres.
Pour faire la moyenne, c'est qui regroupe les données pour faire la moyenne ?
Alors en Europe, on a la chance d'avoir un service très performant que même les Américains nous envient, c'est le service Copernicus. Et le service Copernicus, il rassemble les données de modèles, les données d'observation, enfin toutes les données. Et ces données, elles sont mesurées par satellite, elles sont aussi corroborées par des gens qui sont sur place, qui mesurent tout simplement. Donc des stations marines, par exemple, en France, on en a à Roscoff, on en a à Banyuls, on en a à Villefranche, on en a un peu partout sur le littoral, et tous les pays font un peu pareil. Et en plus de ça, on a des modèles, des simulations numériques qui reproduisent le monde en mouvement, la nature, et qui vont aussi mesurer la même chose. Et donc, en corroborant tous ces moyens, on arrive à avoir une confiance quand même très élevée dans ces nombres. Et donc, le service Copernicus européen, il rassemble toutes ces données qui sont en accès libre. C'est-à-dire que vous et moi, on peut aller sur Internet et analyser ces données. Et il va faire à chaque année des espèces de bulletins, un peu des résumés de l'évolution, par exemple en 2024 sur 2023, de toutes les données. Et donc vous avez ces rapports un peu annuels, et vous pouvez les lire, et vous allez voir. Ils vont comparer ça avec tout le passé, toutes les années qui ont été mesurées par le passé. Vous allez voir à quel point on est sorti des choux, quoi.
Yeah, 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 yeah. Les Valkyries dans... Yeah, 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 yeah. Les Valkyries dans... Ah, y'a pas de folie, j'te parle cash, mon vieux.
Ah ouais.
Choisis bien, t'es un joueur ou un moto dangereux. La Canada Goose. C'est parce qu'il est chauve, la 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 la.
Non.
Toi là, c'est à la frousse.
Chiii.
Monsieur Page, mais oh, la la la.
Et est-ce que donc la surface, la température à la surface, ça affecte les fonds qui sont très profonds?
Alors bien sûr, il y a une latence énorme, hein, parce que tant que cette chaleur, hein, se distribue au fond, on n'est pas dans les mêmes échelles de temps. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez... le temps que les eaux de surface atteignent le fond, c'est de fond, ça dépend quel fond aussi. Est-ce qu'on parle de 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 10 000 mètres? Donc là, ça va augmenter la temporalité. Ça peut prendre 10 à 100 ans pour arriver à 3, 4 000, 5 000 mètres, mais pour aller à 12 000 mètres, par exemple, là, il va falloir attendre des échelles de temps beaucoup plus importantes. Mais par contre, quand on arrive à réchauffer jusqu'à 2, 3, 4 000 mètres, ce qui est le cas déjà aujourd'hui, on voit du réchauffement à ce niveau-là. Donc là, c'est des échelles de quelques... même pas dizaines d'années, ça suffit. Là, on arrive déjà à avoir des océans, par exemple comme l'océan Arctique. Donc le maximum de l'océan Arctique, c'est 3 000, 4 000 mètres. Donc on a tout l'océan Arctique qui est affecté par le réchauffement, et on voit un réchauffement de la surface jusqu'au fond. Avec des animaux au fond, donc un écosystème qu'on appelle benthique, donc c'est des animaux qui vivent au fond de l'océan, sur le sol de l'océan, qui sont extrêmement sensibles au changement de température. Un dixième de degré, un petit centième de degré, ils le ressentent, quoi. Parce que oui, c'est quand même assez figé. Hein, et donc là, oui, il y a des impacts potentiellement sur l'écosystème super importants. Hein. Ouais, donc en fait, on a des changements d'habitat très très forts. On parle aussi beaucoup du blanchissement des coraux dans les zones subtropicales, qui est un autre problème. Donc on parle beaucoup aussi de la température, mais il y a plein d'autres phénomènes, comme l'acidification des océans, par exemple, la déoxygénisation des océans, qui sont des problèmes, pour l'instant, presque plus dangereux pour l'écosystème, enfin, aussi dangereux, en tout cas, que la température. Les animaux qui vivent dans l'océan, eux, risquent de suffoquer, pour de vrai. Parce qu'il y a, une disparition de l'oxygène dans l'océan, pour diverses raisons, notamment du réchauffement. Et ça, par contre, c'est un vrai problème écosystémique. Donc nous, les humains, ça va, on va pouvoir respirer, mais les poissons, peut-être qu'eux, ils vont suffoquer.
Mais c'est possible qu'il ne reste plus rien dans l'océan, ou est-ce que tu sais s'il y a des espèces qui peuvent survivre au manque d'oxygène là-dessous ?
Ouais, il y a toujours des espèces qui s'en tirent.
Des humains, peut-être.
Des humains. Non, ouais, je pense que ça commence à atteindre les limites de ma mémoire. Hein. Ce samedi matin, mais y a des espèces, bien sûr, qui ne respirent pas de l'oxygène. Des bactéries, essentiellement, qui vont vivre, par exemple, sur les cheminées hydrothermales au fond de l'océan. C'est-à-dire que c'est des petits volcans qui sont au fond de l'océan, 6 000, 7 000 mètres, qui crachent du soufre, plein de matières ultra bizarres. Il y a plein d'éléments, des terres rares, des minéraux. Et c'est en général des environnements qui sont... Il faut imaginer de l'eau en ébullition au fond de l'océan, avec des cheminées qui rejettent du soufre à une température avoisinant les 2000 degrés, sans lumière, sans rien. Et il y a des bactéries qui vivent là-dedans. Qui vont soit respirer du soufre, soit d'autres composés chimiques. Il y en a même qui vont essayer de faire de la photosynthèse à travers les petites étincelles qui vont se libérer avec l'énergie qui va se libérer de ces cheminées. Donc on voit bien à quel point la vie va s'adapter à des conditions tout à fait extrêmes et inimaginables. Donc il y aura toujours des formes de vie, oui, pour s'adapter. Je crois, en tout cas.
Comment on les observe, les petites bêtes là que tu disais, les petites espèces qu'il y a tout au fond des océans, tu l'as fait du coup en Arctique ou...
Ouais. Alors il y a plein de méthodes. Bon, la première, c'est d'envoyer un robot pour prendre des photos. Hein. Donc on met un robot au bout d'un câble, on l'envoie au fond et on essaie de le piloter pour essayer de prendre des photos, donc ça c'est ok pour tout ce qui est visible à l'œil nu. Mais on va bien sûr essayer de prélever avec des appareils qui vont faire des mini carottages au fond du sédiment, soit des espèces de râteaux qui vont racler un peu le fond de l'océan sur une petite portion. Des moyens comme ça, mais qui sont du coup assez aléatoire, donc il faut tomber sur le bon endroit, quoi. Donc on peut juste faire atterrir l'instrument à côté de l'endroit où l'on veut. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, pour faire, en tout cas par exemple, les gens qui étudient ces cheminées hydrothermales, ces petits volcans sous-marins, ils sont obligés d'utiliser des robots pour aller chercher exactement l'endroit où ils veulent échantillonner. Et donc là, ils ont des petits bras mécanisés, des petites pinces, et ils vont aller saisir un bout de soufre sur la cheminée, et ils vont le mettre dans un échantillon, et ils vont remonter. Mais il y a plein de manières plus ou moins précises d'échantillonner tout ça. Et par exemple, il y a aussi, ça s'appelle un lander, c'est un gros dispositif, il faut imaginer une cage en métal qui a des petits skis. On va s'arrêter à un endroit pour faire des relevés, on appelle ça une station, donc on se dit bon, ben là c'est, on est content, on s'arrête là, et sur le même point, on va relever plein de, enfin, faire plein de mesures pour qu'on puisse les comparer ensemble, pour que ce soit consistant. Et donc sur chaque station, entre guillemets, sur chaque endroit, on va déployer le lander. Et ça va se mettre à flotter, c'est comme si c'était un planeur sous-marin, c'est-à-dire qu'en fait il va se mettre à une densité, et il va se laisser, il va garder cette flottaison constante, et donc en fait il va suivre les courants marins à la même hauteur, entre guillemets, à la même hauteur du sol, et il va filmer en dessous, et quand il va dire ah là c'est intéressant, hop, il va enlever son petit parachute et il va tomber. C'est pour ça qu'on l'appelle un lander, ça atterrit, et là du coup ça nous permet un peu de contrôler là où on veut mesurer, quoi. Et après, une fois qu'il atterrit sur ses petits skis, il va planter plein de petits instruments dans le sol, et il va les refermer avec des petits bouchons, et il va remonter. Et il faut savoir qu'en Arctique, ça rajoute une difficulté, parce que quand il remonte, souvent il y a la banquise dessus, Donc on doit essayer de le retrouver, c'est retrouver une aiguille dans une botte de foin, quoi. Donc souvent on le perdait, et ça a même créé une chanson. Il y avait des gens qui jouaient de la guitare sur le bateau, et ils ont créé une chanson, where is the lander? Où est le lander? Parce qu'on passait nos journées à attendre qu'il refasse surface. Ça cassait complètement l'organisation, quoi. Il faut savoir que quand on le cherche pas à l'œil nu. Il est encore sous la surface, sous la banquise, et il nous envoie un signal radio, électromagnétique. Et on le cherche pas vraiment à l'œil nu, on le cherche avec les instruments. Mais le problème, c'est que des fois, on a du mal à capter le signal, quoi. On patrouille, on le cherche, quoi. Jusqu'à ce qu'on trouve un signal, et des fois, on le trouve pas, et on en a perdu. Et là, t'es pas content parce que c'est des sommes d'argent qui sont assez colossales, quand même. Enfin, à notre échelle. Comparé aux compagnies pétrolières, on est du pipi de chat, mais pour nous, c'est beaucoup. Et on va le récupérer jusqu'à la prochaine endroit où on va s'arrêter, on va le redéployer, on va le récupérer, et ainsi de suite. Donc en fait, on fait ça, nous on a fait ça une vingtaine de fois sur 2 mois. Donc on en a perdu 1 sur 3. Dès le début, d'ailleurs, ça met pas trop la confiance, quoi. C'est...
Il est perdu quand même, c'est-à-dire il peut tomber dans l'eau ou il est perdu sur la banquise.
Bah, a priori, lui, il a des protocoles, il a des programmes à l'intérieur qui disent « Bon, ben là, si j'arrive pas à faire ça, ben je vais me mettre juste sous la surface et je vais attendre qu'on me trouve avec un signal. » Et donc, a priori, lui, il est à quelques mètres sous la surface, en train de dériver dans l'océan Arctique, on sait pas où. Mais a priori, là, il est là, il dérive, quoi.
Mais il peut tenir combien de temps? Il peut casser? Oui, il va garder les données pendant combien de temps?
Il peut garder les données, mais a priori, au bout d'un an ou deux, il n'a plus de batterie. Et donc, on ne peut plus le retrouver, quoi. Alors, à moins qu'un bateau de pêche le remette dans ses filets ou qu'il s'échoue sur une plage et qu'il est retrouvé par quelqu'un ou quelque chose comme ça, c'est perdu. Alors, en général, il y a le logo et puis il y a marqué « Appelez-nous, s'il vous plaît, soyez gentils. » Si vous retrouvez cet engin, ce n'est pas les extraterrestres, c'est... c'est nous.
C'est rigolo. Et après, quand vous le retrouvez, c'est la surprise qu'il y a dedans?
C'est toujours la surprise, de toute façon. Hein. On ne sait jamais vraiment si ça... Déjà, il y a des défaillances, souvent. C'est des appareils très, très... ils sont soumis à des conditions extrêmes. Le lander, il prend des mesures à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc, il est soumis à une pression énorme. Un matériel commun serait réduit en poussière. Et lui, il résiste. Et forcément, des fois, il y a des ratés. Déjà, ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que même si, admettons, dans le meilleur des mondes, on ramène tout comme il faut, bien sûr... il y a un côté aléatoire dans la prise de décision. Là, on pense qu'on a choisi le spot, l'endroit où il fallait prendre la mesure. On ne sait pas. Donc, ça ramène, par exemple, des données comme du sédiment. Donc là, il va falloir l'amener au laboratoire, l'analyser, tout ça. Il y a d'autres instruments qui vont mesurer plus en direct. Donc là, on va savoir un peu mieux. Juste, on branche l'ordinateur, on a directement les données. Donc là, on sait dire un peu plus rapidement qu'est-ce qui se passe. Donc souvent, on nous demande de nous exprimer là-dessus, on essaie d'être un peu vague, parce qu'en nous-mêmes, on sait pas encore vraiment, en fait. À moins que ce soit vraiment une énorme découverte flagrante. Mais ça, il n'y a que les gens qui font des espèces qui vont dire « Ah, on a découvert une nouvelle espèce ». Il n'y a que eux qui savent vraiment, qui sont sûrs d'avoir fait un résultat. Nous, quand on fait de la chimie, de la bio, de la physique, de la biologie un peu plus petite, on va dire, avec des organismes plus petits, c'est toujours un peu plus délicat.
Ouais, parce que par exemple, tu disais l'organisme des fonds marins là, qui peut ne pas survivre à une différence de micro-degrés. Comment on fait pour s'en rendre compte de ça, en fait? Est-ce qu'on observe un jour qu'il est mort ou comment ça se passe? À quel endroit vous mettez les données pour les...
Mais ça, c'est en allant sur le terrain avec un bateau, c'est quasiment impossible. Parce que, imaginez, cette expédition, on l'a fait en 2013. On revient en 2023-2024. C'est pas en comparant 2 points qu'on va se rendre compte du changement climatique. On peut pas. Il faudrait avoir un environnement contrôlé. Donc en fait, la solution, c'est d'avoir un environnement contrôlé. Donc on prélève ces organismes et on fait des expériences en laboratoire, tout simplement. on prend l'étoile de mer, on la met dans son environnement classique à, je sais pas moi, 0,5 degrés, telle salinité, telle température, telle acidité, et telle pression aussi, j'ai oublié de dire, telles conditions qui sont typiques d'elle, et puis on va augmenter la température tout doucement. Et on va voir comment ça réagit, on se rend compte que ça meurt très rapidement. Donc c'est essentiellement des travaux de laboratoire. Donc voilà, il faut combiner les données de modélisation, les données d'observation de terrain et les données de laboratoire qui sont essentielles. Donc on contrôle notre environnement, on va faire varier juste un paramètre ou deux variables, et on va voir l'impact sur les organismes. Et c'est là où on se rend compte que si on acidifie trop par exemple l'océan, si on met trop chose qui est en train de se passer, eh bien des organismes qui ont des coquilles, par exemple, en calcaire, eh bien, ils vont se dissoudre. Ils ne pourront plus fabriquer leur coquille. Et là, on a un problème. Ouais.
Terre. Alerte météo. Terre.
Alerte météo. Terre.
Bonjour, bonjour, les hirondelles.
Alerte. Alerte météo.
Alerte.
Une émission qui se balade.
Alerte.
En mer et sur terre. Météo terre.
L'émission pour garder les pieds par terre.
Grande histoire et petite question.
Une émission en mer.
Petite histoire et grande question.
Et sur terre.
Alerte.
Alerte, météo terre. Alerte, météo terre. Ha, ha, ha. Alerte, météo terre. Alerte, météo terre.
Vous avez entendu le dernier épisode de Alerte météo terre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur Bandcamp ou sur canalb.fr, rubrique gymnastique sonore. À bientôt!
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.